C'est pour pas vous endormir après le repas. Alors, donc là, on va parler uniquement des cas de prévention, hein, pour les indications de génotypage, et pour les cas d'alloimmunisation, ça sera le topo suivant. Donc, comme vous le savez, 15% de la population française est RHD négatif, et la fréquence du gène RHD, du coup, dans la population, c'est 61%. Donc, si on considère qu'il y a 1 million de grossesses qui sont conçues par an en France, 15% d'un million, ça fait 150 000 femmes qui sont résustées négatives, et 60% de ces femmes ont un fœtus qui est résus dépositif. Donc, après avoir éliminé les IVG, les fausses couches, quand on arrive à 28 semaines d'aménorrhée, on a 75 000 femmes résus D négatives qui ont un fœtus résus D positif et donc qui seraient éligibles à faire du Rofilac en systématique à 28 semaines. Et on sait déjà que le Rofilac a servi à diminuer l'incidence de l'alloimmunisation fœto-maternelle. Donc, on l'avait présenté ce matin dans l'étude de Moïse. C'était en 69, c'était 1,6% d'incidence d'alloimmunisation fœto-maternelle. Et depuis l'avènement des injections de gamma-globuline anti-D, on est descendu à une incidence de 0,5% d'alloimmunisation. Donc cela signifie que cela fait 150 femmes qui sont alloimmunisées par an depuis l'avènement des gamma-globulines. Donc les recommandations du collège de 2005 ont préconisé qu'en plus de la prophylaxie ciblée, il fallait aussi faire la prophylaxie systématique, donc à 300 microgrammes de gamma-globuline à 28 semaines d'aménorrhée. Et cela, en fait, a été basé sur une étude d'Yves Brossard de 87. C'est une étude ancienne, mais il avait recommandé chez les patientes résus D négatives de faire une injection de gamma-globuline à 28 semaines et à 34 semaines, et il y avait une diminution significative des alloimmunisations du troisième trimestre. Donc, je vous remontre le tableau que tout le monde connaît, établi par le CNRHP, qu'on a un petit peu modifié. Donc, comme vous le savez, il faut faire une prévention ciblée de l'alloimmunisation anti-D, donc 200 microgrammes de Rofilac, dans les situations à risque d'hémorragie fœto-maternelle. Donc les fausses couches IVG, grossesse extra-utérine, métrorragie, les môles, tous les gestes invasifs. Il faut faire donc une injection de 200 microgrammes après avoir fait les RAI au préalable. Et on ne fait pas de flyover en dessous de 15 semaines d'aménorrhée parce qu'on se dit que de toute façon, même si c'était très faiblement positif, on n'envisagerait pas de faire de transfusion à un terme aussi précoce. Ensuite, entre 15 et 27 semaines d'aménorrhée, donc on fait toujours la prophylaxie ciblée en cas d'événement sensibilisant. Et on fait un flyover uniquement si on est dans un risque élevé d'hémorragie fœto-maternelle. Donc, par exemple, si on est dans un risque faible, on va faire le Rofilac, mais on ne va pas faire de flyover. Par exemple, une amniosynthèse, on ne va pas faire de flyover. Et évidemment, comme vous le savez, on fait la prophylaxie si on sait que le génotypage RHD fœtal est positif ou bien s'il est inconnu quand on n'a pas encore fait le génotypage. Ensuite, entre 27 et 29 semaines, on fait la prévention systématique de 300 microgrammes de Rofilac. Et puis après, au troisième trimestre, on fait une prévention ciblée de 200 microgrammes, donc dès qu'il y a un événement sensibilisant. Et la question que tout le monde nous pose toujours, on a souvent des appels à ce sujet, c'est quand une patiente a reçu 300 microgrammes de Rofilac à 28 semaines et qu'il y a de nouveau un événement sensibilisant, est-ce qu'on refait encore une injection de Rofilac 200? Donc en fait, il faut toujours la refaire, sauf si on est en présence des trois items suivants. Donc si le Rofilac 300 a été fait dans les trois dernières semaines, si le flyover est négatif et si on a un taux d'anti-D passif qui est supérieur à 6 nanogrammes par ml, il faut qu'on ait ces trois conditions réunies pour sursoir à l'injection de Rofilac 200. Et donc, la plupart du temps, on doit refaire cette injection, cette prévention ciblée. Et en fait, souvent, les gens nous disent, mais normalement, le Rofilac, il couvre, quand on met du 300, ça couvre 12 semaines, ça couvre de 28 semaines à 40 semaines d'aménorrhée, mais c'est que s'il n'y a pas d'événement sensibilisant que ça couvre le troisième trimestre. Donc, s'il y a un événement à risque, il faut refaire le Rofilac 200. Et donc, à l'accouchement, donc là, Avec les nouvelles recommandations, en fonction du... Cela va changer. Donc, le génotypage, évidemment, on ne le fait pas. Et on vérifiera le groupe rhésus au cordon uniquement si le génotypage était négatif. Donc, pour démontrer l'intérêt de la prophylaxie systématique à 28 semaines, il y a une étude très bien faite qui est... une étude suédoise, elle date de 2013. En fait, ils ont fait une étude prospective en population avec un groupe un contrôle historique, donc quand ils ne faisaient pas la prophylaxie au troisième trimestre. Et ils ont montré qu'avant de faire les injections au troisième trimestre, ils avaient une incidence d'immunisation de 0,46%. Et après, en faisant la prophylaxie systématique, ils avaient une incidence de 0,26%. Donc ça faisait une diminution d'environ la moitié des cas et une réduction du risque absolu de 0,20%. Et donc 1 divisé par 0,20, ça veut dire qu'il y avait un besoin de traiter 500 patientes par une injection au troisième trimestre systématique pour éviter une alloimmunisation au troisième trimestre. Donc voilà, on va commencer les cas cliniques interactifs. Vous êtes tous prêts? Vous avez appuyé sur C? Je ne sais pas si on peut voir... combien il y a de personnes... Bon, on va voir sur le premier cas clinique. C'est toi?
Oui. Donc, premier cas, donc, c'est choix simple. Hein, donc, il faut choisir la bonne réponse. Madame A, RH1 négatif, a été suivie aux urgences gynéco pour des métroragies répétées sur un décollement trophoblastique pour lesquelles elle a été traitée par Ophylac 200 à 7 semaines, puis à 11, sans prélèvement de RAI au préalable, et elle revient à 15 SA pour toujours des métroragies. Donc, quels examens prescrivez-vous? Réponse A, RAI, génotypage RHD fœtal non invasif. Réponse B, groupe rhésus du conjoint plus un Kleiower. Réponse C, RAI, Kleiower, génotypage. Comment ça marche?
Ça y est, on voit...
Ça monte.
On ne voit pas... On ne peut pas l'enlever. Ouais.
Ouais, ouais. Non, c'est le truc.
Ah oui, c'est en bas.
Ah oui. Ça fait partie du...
D'accord. Je crois qu'il y avait 96 au début. Ouais.
Après, vous faire enter.
C'est OK.
Oui. OK, oui. Alors, celui-là, tu prends?
Non, bouton vert.
Bouton vert, non? Peut-être... Ah, voilà.
Bon, c'est partagé. Voilà. Donc on est à...
Oui, c'est parce qu'on est à 15.
On est à 15 semaines. Donc normalement, on fait un Kleiower. Donc c'était la réponse C, RAI, Kleiower et génotypage RHD fœtal non invasif. À partir de 15 semaines, on fait un Kleiower.
Désolée, oui, on arrête. Oui, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui,
bah, en fait, avant 15 semaines, c'est parce qu'une dose de Rofilac, de toute façon, couvrira, même si le tout petit fœtus se vide totalement, une dose sera suffisante. Après 15 et ça, il y a un risque d'adaptation de posologie. C'est pour ça qu'on demande le Kleiower.
Oui,
on aurait peut-être dû faire un peu plus. Donc, à cette RAI, on identifie un anti-RH1 faible en TIA et le test de Kleiower est positif à une hématie fœtale. Quelle est votre attitude? Conclure à un anti-RH1 passif, A. B, envoi de prélèvement pour dosage. C, absence d'indication à faire une troisième injection de Rofilac.
taux de participation, vous voyez, voisins de pays hors zone Europe. Hein.
Bon, allez. Bon, c'est bon. En voie de prélèvement pour dosage, tout à fait, puisqu'on ne peut pas conclure un antidépressif sans avoir fait un microtitrage pour pouvoir comparer par rapport aux dates d'injection et aux doses, puisque le microtitrage va être la seule technique qui va permettre de conclure sur la nature passive ou immune de l'anticorps. Et vu qu'on a une injection qui date de plus de 3 semaines et que le cléueur est positif, on peut refaire une injection. Oui.
Ça fait plus que 3 semaines.
Ça fait plus que 3 semaines. Il y a 2 paramètres. Voilà. Donc, on recommandera de faire une nouvelle injection de Rofilac. Cas numéro 2, Madame B, RH impartiel de type D4B, enceinte de 14 semaines, RAI négatif, doit avoir un génotypage fœtal en vue de l'application de l'immunoprophylaxie du troisième trimestre. Le génotypage RHD fœtal est-il réalisable chez cette patiente? Oui, non, ne sait pas. Alors, 63% de oui, eh bien non, puisque la patiente étant partielle, elle va avoir certaines séquences du gène RHD qui vont interférer avec la technique au niveau des exons explorés. Le génotypage fœtal va être ininterprétable dû aux présences des séquences maternelles.
Allez-y, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut venir vers vous pour vous donner le micro? Parce que souvent, c'est des questions qui profitent à tout le monde.
Personnellement, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça va dépendre de vos séquences cibles. Vous faites aussi en parallèle le génotypage maternel. Vous voyez que votre génotypage maternel ressort sur l'exon 10, si vous travaillez sur l'exon 10. L'exon 4 et l'exon 5 sur lesquels je travaille sont négatifs. Et je me permets de rendre fœtus négatif.
Malgré que l'exon 10 soit positif dû au matériel de la mère.
Il est positif au matériel de la mère, elle avait des 6 ou 8.
Hein?
L'exon 10 est positif sur le blé partiel, mais l'exon 4 et 5 étant négatif, je peux répondre que c'est négatif, ou si les 2 sont positifs, je réponds que c'est un plus positif, ça vaut aucun souci.
Ouais. Maintenant, il reste l'éternelle question de l'utilité d'une prophylaxie par Rofilac chez une patiente départielle.
Nous, on fait l'exon 10, l'exon 7 et l'exon 5. Et donc, on sera pollué par l'ADN maternel. Ouais. Donc du coup, cette dame doit-elle être traitée par IGRH au troisième trimestre, par l'Eurofilac, prophylaxie chez les patientes partielles.
Ça marche plus ? Ça vote plus ?
Ça vote plus ? Ça vote plus.
Ça marche plus.
Peut-être pour revenir en arrière ou non?
Puis sur le truc.
Ah, c'est ça pour lancer le compte? Allez.
Stop, appuyez pas là.
Ça y est, c'est bon.
C'est bon. Donc oui. Puisque la patiente RH1 partielle peut s'immuniser contre les parties de la molécule RHD qu'elle ne possède pas. Donc il est préconisé de faire la prophylaxie rhésus. Toujours pour cette même patiente, dans quel cas cette patiente doit-elle...
Excuse-moi, j'ai juste une petite question. Du coup, quelles sont vos recommandations vis-à-vis de ces départiels qui reçoivent du rofilac et pour lequel il est très vite consommé? Est-ce que vous recommandez de nouvelles injections et sous quel délai?
Non, pour l'instant, c'est tout à fait calqué sur la patiente RHD négatif. Ça suit le même schéma.
D'accord. Et donc, même si la RAI se négative rapidement... Vous ne préconisez pas une nouvelle injection?
Pour l'instant, non. Non. Après, s'il y a un événement immunisant, en effet, on va refaire faire une injection. Mais, après, ça va, selon certains partiels, la RAI va se négativer plus ou moins rapidement.
Monsieur, au troisième rang également, si vous voulez bien. Si vous voulez bien, monsieur, là, oui.
Ma question, c'est, il y a un risque d'immunisation, mais est-ce que le rofilac est protecteur? Est-ce qu'il y a des études qui ont montré que le rofilac, dans ces cas-là, était protecteur du fait de la clairance du rofilac rapide?
Après, il y a pas mal de choses qui restent à faire par rapport à ces patientes partielles, justement, pour savoir vraiment quelle est l'efficacité du rofilac chez ces patientes. Au niveau de la prophylaxie ciblée, en fait... d'emblée efficace, souvent, sauf on va voir quelques cas dans le topo suivant où on voit que finalement c'est un peu compliqué. Et par contre, c'est vrai que pour la prophylaxie systématique, où là il va y avoir une consommation rapide en fin de grossesse, après ce sont des patientes qui développent des anticorps qui sont un petit peu moins dangereux que l'allo anti-D de la patiente D négative. Oui,
c'est difficile de répondre à la question de monsieur parce que déjà, on ne connaît pas le risque d'allo-immunisation dans ces situations. Oui. Et puis, il y a tellement de partiels que ce qui se passe avec un partiel n'est pas le même que pour l'autre. Pour le D6, on est pour ainsi dire sûr que... Enfin, je veux dire, s'il y a vraiment un risque d'immunisation dans une situation de mismatch, parce que bon, il manque énormément d'épitope, mais après, pour toute la série des autres partiels, donc c'est vraiment une prophylaxie, je dirais, empirique.
Oui.
Voilà, on est dans cette situation.
Pour l'instant, oui.
Oui.
Mais ça sera à explorer, en effet.
Voilà.
Ouais. Donc, toujours pour cette patiente, dans quel cas cette patiente doit-elle être traitée par l'urofilac au moment de l'accouchement? Enfant RH1 positif, enfant RH1 négatif, enfant RH1 avec un phénotype tout à fait similaire au niveau des affaiblissements que celui de sa maman. Donc bien sûr, lorsque l'enfant est RH1 positif, hein, puisque la maman peut s'immuniser contre les épitopes qu'elle ne possède pas. Donc, cas numéro 3 de Madame C, RH1 négatif, qui est enceinte de 13 SA, RAI négative, qui a réalisé un génotypage RHD fœtal qui est rendu ininterprétable. Alors, là, attention, il faut cocher la réponse fausse, pas la bonne réponse. Quelles peuvent en être les causes? Donc, réponse fausse, je vous rappelle. Donc, A, prélèvement altéré. B, grossesse gémellaire. C, problème technique. D, mère RH1 silencieux, non dépsie. Oui.
Il y en a
25
qui
hésitent
encore.
Bon, on va y aller, sinon... Alors, grossesse gémellaire, tout à fait. Prélèvement altéré ou problème technique. Donc, on peut avoir plusieurs runs avec autant d'exons positifs ou négatifs, ou certains exons complètement négatifs. Donc, on peut demander un prélèvement de contrôle qui résout le problème assez facilement. Pour la mère RH1 silencieux non dépsy, là encore, le génotypage est pollué par le gène maternel et il est recommandé par défaut de faire la prophylaxie rhésus. Pour une grossesse gémellaire, on peut tout à fait prescrire un génotypage fœtal. On aura un cas par la suite. Je reviens juste sur les patientes RHD silencieux de type DPSI, donc ce qui correspond à 66% des patientes subafricaines qui ont un phénotype négatif. Donc la mutation de l'exon 5 va entraîner qu'il n'y a pas de traduction du gène en protéine, donc il n'y a pas la structure antigénique à la surface du globule rouge. Donc on a les exons 7 et 10 qui sont positifs et un exon 5 négatif. Et au CNRHP, dans ces conditions, on réalise l'exploration d'autres exons, donc l'exon 5 non dépsy, également l'exon 6, pour pouvoir répondre à la problématique. Donc voici maintenant les cas pour les gémellaires.
Donc Madame D, elle est rhésus D négatif, elle est enceinte de 15 semaines d'aménorrhée, elle a une grossesse gémellaire monocoriale biamniotique, et elle vous montre le résultat qu'on lui a donné pour le rhésus de ses fœtus, et c'est écrit rhésus D positif. Donc elle demande si un ou les deux bébés sont positifs. Donc qu'est-ce que vous répondez ? Réponse A, ces deux fœtus sont RHD positifs. Réponse B, au moins un des deux est RHD positif. Et réponse C, on ne peut pas conclure. Plutôt une question qui est réservée aux obstétriciens. T'appuies juste en plein milieu ? Ouais. Alors, c'est partagé. Donc, je vous donne pas la réponse tout de suite. Je vous donne la réponse dans un cas. Mais en tout cas, c'est partagé entre soit les deux rhésus positifs, soit au moins un des deux. Donc là, c'était une grossesse monocoriale biamniotique. Donc, je vous pose la même question, mais maintenant avec une grossesse gémellaire bicoriale biamniotique. Elle a un résultat qui dit génotypage fœtal rhésus D positif. Et là, elle vous demande, est-ce que les deux fœtus sont RHD positifs, au moins un des deux est RHD positif, ou on ne peut pas conclure ?
Ça marche plus ?
Ah, faut appuyer sur ça. Ça. Et après, je reclique sur quoi ? Ah oui. Non, il fait rien.
Arrêtez.
Attendez un petit peu, je relance le vote. Voilà, je pense que c'est bon. Non ? On a vu la réponse. Voilà. Bon.
Il y en a que
10. Non, mais c'est bon. Vous êtes joueur ? Ouais, c'est pas grave, je vais changer. Hein. Donc voilà ce qu'il fallait répondre. Lorsqu'on a une patiente qui a une grossesse gémellaire monocoriale biamniotique, là les obstétriciens le savent très bien, il y a un placenta et deux poches des os, donc c'est forcément monozygote. C'est issu de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Donc c'est sûr que c'est monozygote.
Et lorsqu'on a une grossesse bicoriale biamniotique, en fait, ça veut dire qu'on a deux placenta, deux poches des os. Donc, ça peut être soit ce cas-là, c'est-à-dire deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes, donc avec deux fœtus qui sont différents. Soit ça peut être ce cas-là, une grossesse monozygote et avec une division un peu plus retardée. Donc, en cas de grossesse monozygote, si on a un résus D positif, forcément les deux sont identiques, donc les deux sont positifs. Et si c'est une grossesse bicoriale, on peut dire qu'au moins un des deux fœtus est résus D positif, mais l'autre, on ne sait pas. Ça va pour les biologistes? J'étais claire?
Vous avez compris les biologistes?
Non, mais peut-être que c'était pas très évident. Non. Alors. Ensuite, le dernier cas clinique, Madame F est résus D négatif, enceinte de 14 semaines d'aménorrhée. Donc, elle a déjà eu son génotypage fœtal résus D positif, et ensuite, elle a eu une amniosynthèse à 17 semaines. Donc, on lui a fait l'injection Drophylac 200 parce qu'on était dans une situation à risque. Donc, normalement, je l'ai dit tout à l'heure, vous devriez savoir, est-ce qu'il y a un intérêt de réaliser la prophylaxie à 28 semaines chez cette patiente qui a reçu le Rofilac 200 à 17 semaines? Ça marche. Alors, donc une majorité de bonnes réponses, oui, comme la prophylaxie ciblée a été faite à 17 semaines, quand on est à 28 semaines, il faut refaire de toute façon la prophylaxie avec du Rofilac 300 chez cette patiente résus D négatif avec un fœtus résus D positif. Et évidemment, il faut toujours faire les RAI au préalable. Là, dans ce cas-là, on identifiait un anti-RH1 qui était à un microtitrage de 300 nanogrammes par ml et que ça correspondait bien à la décroissance des anti-D de l'injection qui avait été faite à 17 semaines. Donc, son fœtus a été génotypé RHD positif. Elle a donc bénéficié de la prophylaxie. Elle accouche d'un enfant qui est de phénotype RH négatif, 1 négatif. Est-ce que ce résultat est possible? Alors, donc oui, effectivement, ce résultat est possible, parce que la patiente peut être enceinte d'un fœtus qui est un gène RHD silencieux. Donc du coup, on a mis en évidence par le génotypage le gène RHD, mais il ne s'exprime pas en protéine D. Donc du coup, il est résus négatif sur le groupe qui a été fait au cordon. Donc c'est possible.
Donc en conclusion, le génotypage fœtal non invasif est un outil essentiel pour la prise en charge des patientes enceintes non alloimmunisées, ce qui va permettre d'éviter les injections d'IGRH inutiles et faciliter la prise en charge. Donc c'est un examen qui prend toute sa place au milieu du tableau des recommandations de la prophylaxie rhésus. De plus, le passage à la nomenclature depuis juillet 2017 permet une généralisation de cet examen chez la femme RH1 négative. Donc, on voit une montée en charge au niveau du nombre d'examens demandés. Et du coup, ce qui ce qui commence déjà à se mettre en place, c'est que bon, il y a en effet une nécessité de compléter les recommandations du CNGOF hein, sur la prophylaxie rhésus hein, suite à ce remboursement.
Ça a été fait,
quand même. Oui.